This recording accompanies the Language B Standard Level Specimen Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for French.
Cet enregistrement accompagne le spécimen d'épreuve de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de français.
Esta grabación acompaña el examen de muestra de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de francés.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Texte A. Vous écoutez une émission d'une radio française pendant laquelle Vincent est interviewé après avoir passé 6 mois en Belgique.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un jeune Français de 21 ans vient nous parler de son expérience en Belgique. Vincent, comment vas-tu ?
Très bien.
Vincent, dans quelle partie de la Belgique as-tu habité ces 6 derniers mois ?
Dans la partie française, à Liège.
Et parle-t-on uniquement français en Belgique ?
Non. En Belgique, il y a 3 communautés. La flamande, la française et la germanophone. Selon où les gens habitent, ils parlent flamand, français ou allemand.
C'est un peu compliqué tout ça. Et pourquoi tu es parti là-bas ?
Pour étudier dans une très bonne école de commerce liégeoise. En plus, les Liégeois ont la réputation d'être super ouverts et ils savent s'amuser. Pour un étudiant, c'était parfait.
Et à part Liège, qu'est-ce que tu as découvert ?
Plusieurs villes, Bruges, Anvers, Namur et Bruxelles, la capitale. J'ai aussi découvert des différences linguistiques. Par exemple, ils disent 70 au lieu de 70. Et ils disent aussi déjeuner au lieu de dîner.
Et les coutumes, la vie des gens sur place ?
À Liège, la vraie tradition, c'est la frite.
La frite ?
Oui, le jour comme la nuit. Quand un Belge a faim, il cherche à manger dans une baraque à frites où il achète une portion de frites avec une bonne sauce.
Quelles autres choses typiquement belges est-ce que tu as aimé, Vincent ?
Facile. Principalement, le chocolat, qui a une réputation mondiale. La bière aussi. Les gaufres. Et puis, il y a la bande dessinée comme Tintin. La Belgique est un pays très riche culturellement.
Eh bien, Vincent, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience à l'étranger avec nous. Et maintenant, les pubs. Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la 2e et dernière fois. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un jeune Français de 21 ans vient nous parler de son expérience en Belgique. Vincent, comment vas-tu ?
Très bien.
Vincent, dans quelle partie de la Belgique as-tu habité ces 6 derniers mois ?
Dans la partie française, à Liège.
Et parle-t-on uniquement français en Belgique ?
Non, En Belgique, il y a trois communautés, la flamande, la française et la germanophone. Selon où les gens habitent, ils parlent flamand, français ou allemand.
C'est un peu compliqué tout ça. Et pourquoi tu es parti là-bas ?
Pour étudier dans une très bonne école de commerce liégeoise. En plus, les Liégeois ont la réputation d'être super ouverts et ils savent s'amuser. Pour un étudiant, c'était parfait.
Et à part Liège, qu'est-ce que tu as découvert ?
Plusieurs villes, Bruges, Anvers, Namur et Bruxelles, la capitale. J'ai aussi découvert des différences linguistiques. Par exemple, ils disent 70 au lieu de 70. Et ils disent aussi déjeuner au lieu de dîner.
Et les coutumes, la vie des gens sur place ?
À Liège, la vraie tradition, c'est la frite.
La frite ?
Oui, le jour comme la nuit. Quand un Belge a faim, il cherche à manger dans une baraque à frites où il achète une portion de frites avec une bonne sauce.
Quelles autres choses typiquement belges est-ce que tu as aimé, Vincent ?
Facile. Principalement, le chocolat, qui a une réputation mondiale. La bière aussi. Les gaufres. Et puis, il y a la bande dessinée comme Tintin. La Belgique est un pays très riche culturellement.
Eh bien, Vincent, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience à l'étranger avec nous. Et maintenant, les pubs. Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions.
Texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Texte B. Vous écoutez un podcast d'un blog d'Alain. Alain a passé une soirée avec Béatrice et Cédric, deux nouveaux amis déchétariens. Les déchétariens sont des personnes qui refusent le gaspillage alimentaire et qui récupèrent de la nourriture dans les poubelles.
Je m'appelle Alain et je viens de passer une soirée extraordinaire avec Béatrice et Cédric, deux déchétariens. Non, pas végétariens, j'ai bien dit déchétariens. Ça vient de déchets, les choses qui sont jetées dans les poubelles. Les déchétariens sont des gens qui se nourrissent de déchets trouvés dans les poubelles. Ils refusent le gaspillage alimentaire. Béatrice est déchétarienne depuis 5 ans et Cédric depuis seulement une année. Avant de rencontrer Béatrice et Cédric, je n'aurais jamais imaginé un jour faire un repas avec le contenu des poubelles. Pour moi, avant cette expérience, il fallait être très pauvre pour se nourrir dans les poubelles. Mais Béatrice et Cédric ne sont pas pauvres. Ce sont des militants. Ils trouvent de tout dans les poubelles. Ils mangent de tout aussi, sauf Cédric qui n'aime pas les yaourts. Pour ma première expérience de déchétarien, nous sommes partis après la fermeture des magasins quand il n'y a plus beaucoup de gens dans les rues. Nous avons commencé par inspecter les poubelles d'une boulangerie. Béatrice adore les vieux pains au chocolat. Elle les prépare au four et c'est délicieux. Après, nous sommes allés regarder dans les poubelles d'un supermarché. Derrière le supermarché, nous avons trouvé une quantité incroyable de légumes dans un état encore acceptable. J'ai moi-même trouvé un ananas pour le dessert. J'étais super content. Béatrice, elle, a fait une découverte sensationnelle. Une plaque de chocolat. Le chocolat était intact et accompagnera parfaitement mon ananas. Béatrice et Cédric font partie d'un mouvement né aux États-Unis. Les associations de déchétariens se multiplient en Amérique du Nord et en Europe. Les membres de ces associations luttent à leur manière contre la surconsommation et la surproduction de produits alimentaires. N'importe qui peut devenir membre, sauf les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants qui risquent de mal supporter ce régime. L'objectif des déchétariens est d'alerter le monde sur les dangers de la surconsommation qui entraîne un gaspillage monstrueux. Sur leur site internet, on peut découvrir tous les trucs et astuces pour bien consommer. Le tout de façon 100% inoffensive. Car si tout ce que l'on trouve dans les poubelles n'est pas au top de l'hygiène, il n'y a, selon eux, quasiment aucun risque sanitaire. Cédric en est convaincu. Il m'a dit « Plus nos défenses immunitaires sont confrontées à des bactéries, plus elles gagnent de l'expérience et deviennent efficaces. » Béatrice a ajouté « C'est le principe du vaccin. » On confronte le système immunitaire de l'organisme à un virus inoffensif et alors l'organisme va apprendre à combattre le virus inoffensif.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Je m'appelle Alain et je viens de passer une soirée extraordinaire avec Béatrice et Cédric, deux déchétariens. Non, pas végétariens, j'ai bien dit déchétariens. Ça vient de déchets, les choses qui sont jetées dans les poubelles. Les déchétariens sont des gens qui se nourrissent de déchets trouvés dans les poubelles. Ils refusent le gaspillage alimentaire. Béatrice est déchétarienne depuis 5 ans et Cédric depuis seulement une année. Avant de rencontrer Béatrice et Cédric, je n'aurais jamais imaginé un jour faire un repas avec le contenu des poubelles. Pour moi, avant cette expérience, il fallait être très pauvre pour se nourrir dans les poubelles. Mais Béatrice et Cédric ne sont pas pauvres. Ce sont des militants. Ils trouvent de tout dans les poubelles. Ils mangent de tout aussi, sauf Cédric, qui n'aime pas les yaourts. Pour ma première expérience de déchétarien, nous sommes partis après la fermeture des magasins quand il n'y a plus beaucoup de gens dans les rues. Nous avons commencé par inspecter les poubelles d'une boulangerie. Béatrice adore les vieux pains au chocolat. Elle les prépare au four et c'est délicieux. Après, nous sommes allés regarder dans les poubelles d'un supermarché. Derrière le supermarché, nous avons trouvé une quantité incroyable de légumes dans un état encore acceptable. J'ai moi-même trouvé un ananas pour le dessert. J'étais super content. Béatrice, elle, a fait une découverte sensationnelle. Une plaque de chocolat. Le chocolat était intact et accompagnera parfaitement mon ananas. Béatrice et Cédric font partie d'un mouvement né aux États-Unis. Les associations de déchétariens se multiplient en Amérique du Nord et en Europe. Les membres de ces associations luttent à leur manière contre la surconsommation et la surproduction de produits alimentaires. N'importe qui peut devenir membre, sauf les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants qui risquent de mal supporter ce régime. L'objectif des déchétariens est d'alerter le monde sur les dangers de la surconsommation qui entraîne un gaspillage monstrueux. Sur leur site internet, on peut découvrir tous les trucs et astuces pour bien consommer. Le tout de façon 100% inoffensive. Car si tout ce que l'on trouve dans les poubelles n'est pas au top de l'hygiène, il n'y a, selon eux, quasiment aucun risque sanitaire. Cédric en est convaincu. Il m'a dit « Plus nos défenses immunitaires sont confrontées à des bactéries, plus elles gagnent de l'expérience et deviennent efficaces. » Béatrice a ajouté « C'est le principe du vaccin. » On confronte le système immunitaire de l'organisme à un virus inoffensif et alors l'organisme va apprendre à combattre le virus inoffensif.
Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions.
texte c'est « Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. » Texte C. Vous écoutez une interview radio d'une jeune femme qui a une profession assez originale.
Notre prochaine invitée a une occupation hospitalière plutôt inhabituelle. Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Alors Béatrice, vous travaillez dans les services enfants de certains hôpitaux pour une association qui s'appelle le Rire Médecin.
Oui, effectivement. Le Rire Médecin envoie des clowns dans une cinquantaine de services pédiatriques en France.
Des clowns ?
Oui, c'est cela, pour distraire les enfants, pour rendre la maladie plus supportable, surtout quand il s'agit d'une maladie de longue durée, mais pas uniquement.
Vous faites cela comme bénévole ?
Ah non, non, je travaille 2 jours par semaine pour le Rire Médecin. Et je tiens à préciser que l'association ne fait appel qu'à des comédiens clowns professionnels.
D'accord, merci. On reprend tout de suite après une petite pause publicitaire. Alors Béatrice, donnez-nous une idée un peu précise de ce que vous faites dans les hôpitaux.
Notre but est de faire jouer les enfants et de les faire rire, et cela malgré leur hospitalisation. Par exemple, il y a très souvent de la chanson, du rap ou autre.
Ah oui ?
Mais nous racontons également pas mal d'histoires. Nous faisons des jeux de mime, de la magie.
Ça doit bien les amuser.
Oui, et en plus, ça leur permet de mieux supporter leur hospitalisation et de porter un regard différent sur leur maladie. Ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est de leur rappeler qu'ils sont peut-être malades, mais qu'ils sont avant tout des enfants.
Les parents aussi doivent apprécier, non ?
Tout à fait, car vous savez, les parents aussi vivent parfois mal l'hospitalisation d'un enfant. Ils peuvent s'enfermer dans le cercle de la maladie et finir dans la dépression.
Et oui, parce que les parents, eux aussi, ont besoin de rire.
Bien sûr, et de montrer à leurs enfants qu'ils savent toujours rire. D'ailleurs, depuis 2015, l'association organise des ateliers pour les parents afin de leur apprendre à accompagner leurs enfants par le jeu, le mime, la chanson pendant leur maladie.
En plus des gens comme vous, j'imagine que l'association fait également appel aux bénévolats ?
Oui, bien sûr, comme toutes les associations à but non lucratif, que ce soit pour travailler dans les bureaux de l'association ou pour participer à divers événements.
Des événements de quel genre ?
Ça peut être des collectes d'argent dans la rue, des ventes de produits aux couleurs et au profit de Rire Médecin lors de festivals. L'association a des comités locaux très dynamiques.
Et je suis sûr que certains de nos auditeurs ne manqueront pas d'être intéressés. Tout renseignement sur le site du Rire Médecin ?
Absolument. Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la 2e et dernière fois.
Notre prochaine invitée a une occupation hospitalière plutôt inhabituelle. Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Alors Béatrice, vous travaillez dans les services enfants de certains hôpitaux pour une association qui s'appelle le Rire Médecin.
Oui, effectivement. Le Rire Médecin envoie des clowns dans une 50aine de services pédiatriques en France.
Des clowns ?
Oui, c'est cela. Pour distraire les enfants, pour rendre la maladie plus supportable, surtout quand il s'agit d'une maladie de longue durée, mais pas uniquement.
Vous faites cela comme bénévole ?
Ah non, non. Je travaille 2 jours par semaine pour le Rire Médecin. Et je tiens à préciser que l'association ne fait appel qu'à des comédiens clowns professionnels.
D'accord, merci. On reprend tout de suite après une petite pause publicitaire. Alors Béatrice, donnez-nous une idée un peu précise de ce que vous faites dans les hôpitaux.
Notre but est de faire jouer les enfants et de les faire rire, et cela malgré leur hospitalisation. Par exemple, il y a très souvent de la chanson, du rap ou autre.
Ah oui ?
Mais nous racontons également pas mal d'histoires. Nous faisons des jeux de mime, de la magie.
Ça doit bien les amuser.
Oui, et en plus, ça leur permet de mieux supporter leur hospitalisation et de porter un regard différent sur leur maladie. Ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est de leur rappeler qu'ils sont peut-être malades, mais qu'ils sont avant tout des enfants.
Les parents aussi doivent apprécier, non ?
Tout à fait, car vous savez, les parents aussi vivent parfois mal l'hospitalisation d'un enfant. Ils peuvent s'enfermer dans le cercle de la maladie et finir dans la dépression.
Et oui, parce que les parents, eux aussi, ont besoin de rire.
Bien sûr, et de montrer à leurs enfants qu'ils savent toujours rire. D'ailleurs, depuis 2015, l'association organise des ateliers pour les parents afin de leur apprendre à accompagner leurs enfants par le jeu, le mime, la chanson pendant leur maladie.
En plus des gens comme vous, j'imagine que l'association fait également appel au bénévolat ?
Oui, bien sûr, comme toutes les associations à but non lucratif, que ce soit pour travailler dans les bureaux de l'association ou pour participer à divers événements.
Des événements de quel genre ?
Ça peut être des collectes d'argent dans la rue, des ventes de produits aux couleurs et au profit de Rire Médecin lors de festivals. L'association a des comités locaux très dynamiques.
Et je suis sûr que certains de nos auditeurs ne manqueront pas d'être intéressés. Tout renseignement sur le site du Rire Médecin ?
Absolument. Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.